Vous écoutez RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Merci d'écouter RTL, il est 8h24 et maintenant vous allez pouvoir dialoguer avec Vincent Peillon. Vous êtes nombreux à nous avoir appelés, on va essayer d'être pratique et concret. Arnoul, bonjour.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur Peillon. Bonjour, une question sur l'éducation nationale. À gauche, vous avez entre autres une gestion comptable pour améliorer les résultats de l'éducation nationale. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai un gamin qui est en 6e avec une classe très hétéroclite. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent, à un moment donné, de réfléchir à un nouveau système, d'avoir des classes, pourquoi pas, de 35 à 40 avec des élèves qui suivent correctement les cours, et d'avoir des classes, par contre, de 15 à 20 pour les élèves en difficulté, pour que, in fine, on puisse faire progresser ces élèves en difficulté. Donc, assumer réellement des classes de niveau pour avoir une meilleure efficacité, sans obligatoirement augmenter le nombre de professeurs.
Vincent Peillon, vous répond, c'est une question très intéressante.
Oui, d'abord, sur l'approche quantitative, moi, je ne pense pas, et en particulier pour ce que vous dites, vous voyez bien que la réforme du collège n'est pas une approche quantitative de la gauche, c'est une approche qualitative, changement pédagogique, accompagnement pour les élèves, nouvelle façon de travailler entre les professeurs et sur les projets. Et je pense qu'il ne s'agit pas de rajouter toujours des moyens, il s'agit de changer un certain nombre de choses et de pédagogie. Par exemple, vous parlez d'un enfant, le vôtre, qui est en 6e, c'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait une meilleure liaison aussi entre, vous savez, cette difficile rupture entre le CM2 et la 6e. Donc je ne crois pas ça. Et je pense que ce n'est pas en rajoutant des moyens, il faut transformer nos méthodes.
Deuxièmement,
sur les classes de niveau, elles ont existé. Elles ont montré que plus vous mettez des élèves en difficulté ensemble et d'autres de l'autre côté, et les meilleurs ensemble, les meilleurs ne progressent pas vraiment. Et par contre, ceux qui sont plus en difficulté décrochent. Et donc, vous savez, on est plus sur l'idée qu'il faut, au contraire, mettre les enfants ensemble et puis permettre, et c'est l'aide individualisée dont on parlait, c'est les projets, et bien permettre qu'il y ait des différenciations dans les appuis, dans les soutiens, etc. Mais l'idée que trier les enfants très tôt, en mettant tous les mauvais d'un côté, tous les bons de l'autre, on l'a déjà fait, on a vu que ça ne faisait qu'accroître les difficultés, sans permettre, dans le fond, à l'excellence d'être encore plus excellente. Car c'est une idée française assez curieuse, c'est l'idée que, dans le fond, la démocratie et l'excellence ne vont pas ensemble. C'est faux. C'est souvent, même pour les bons élèves, quelque chose de très valorisant d'aider, c'est l'enseignement mutualiste, d'aider ceux qui sont plus faibles et d'être déjà dans une responsabilité, dans un partage avec d'autres. Donc je comprends votre préoccupation.
Vous êtes sûr de ne pas avoir une vision très idéalisée de ce qui se passe dans nos classes, Vincent Peillon ?
Non,
je comprends très bien l'intention. Je vous renvoie à la réalité qui finalement était aussi le sens de la question d'Arnoul. Je ne dis pas que vous la méconnaissez, mais voilà. Est-ce que ça n'est pas le philosophe qui s'exprime plus que le père de famille qui voit ses enfants en classe ?
Non, je ne crois pas. Je crois que justement, moi j'ai même créé un comité indépendant d'évaluation parce qu'en France, on parle en fonction de sa subjectivité ou de l'air du temps. Il y a des études extrêmement précises sur l'école, chacun étant concerné. Il y a des études extrêmement précises sur ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire quel est du point de vue de l'excellence des élèves, le lien avec ce qu'on pourrait appeler la mixité scolaire, des moins bons et des meilleurs. Ça tire vers le haut les moins bons et ça ne disqualifie pas les meilleurs. Vous savez d'ailleurs, la grande école républicaine que vous aimez tous, c'était les classes uniques. Et dans les classes uniques, ce qui était formidable, c'est que vous aviez des enfants qui allaient d'ailleurs de la maternelle au CM2 et ils ont bien travaillé et ils ont souvent produit des grands savants et des grands intellectuels.
Arnoul nous appelait de Strasbourg dans le Bas-Rhin, je le remercie de son appel et nous accueillons Jean-Claude qui lui vous appelle de Toulouse en Haute-Garonne. Bonjour Jean-Claude, Vincent Peillon vous écoute.
Bonjour Monsieur Peillon, bonjour Monsieur Calvi. Monsieur Peillon, en tant que candidat à la présidence de la République, donc de tous les Français, pouvez-vous me dire si vous regrettez ou si vous maintenez la comparaison que vous avez faite entre la stigmatisation des musulmans en France et l'obligation du port de l'étoile jaune pour les juifs de France à partir de juin 1942.
Non, très nettement, monsieur, si c'est ce qui a été compris, et j'ai bien vu que c'était cela, je l'ai dit, je le regrette, la polémique est close, y compris pour des raisons qui me concernent personnellement. J'ai trouvé qu'il y avait un peu d'indignité à me faire ce reproche. Maintenant, il y a une chose que je maintiendrai jusqu'au bout, c'est que l'on ne doit pas utiliser la laïcité, qui est le cœur de mon engagement politique, pour désigner certaines populations à la vindicte des autres. La laïcité doit permettre à toutes les religions et à ceux qui n'en ont pas de vivre ensemble pacifiquement, en séparant, vous le savez, les églises et l'État et en assumant la neutralité de l'État. Si nous utilisons, certains le font à l'extrême droite, la laïcité pour stigmatiser des populations, je pense que nous sommes dans quelque chose qui nous prépare des moments difficiles et qui est très éloigné de la vraie laïcité. Pour la première partie de votre question, vraiment, je l'ai dit, vous verrez d'ailleurs que c'était affiché sur le site du CRIF, j'ai été moi-même extrêmement meurtri qu'on ait pu penser une seconde que c'était le cas. Lisez bien mon Wikipédia, vous comprendrez pourquoi.
La réponse est Claire, et c'est Claire maintenant qui va justement vous interroger. Elle nous appelle d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Claire.
Bonjour. Moi, je suis concernée par le système de santé, donc je voulais vous poser une question à ce sujet-là. Donc oui. Notre système de santé est de plus en plus en difficulté. Madame Touraine a tout fait pour que le secteur privé, libéral, soit défavorisé, alors qu'en fait, il est prouvé qu'il soignait moins cher, qu'il soigne pour moins cher. Qu'en pensez-vous et quelles seraient vos actions en tant que président de la République, Monsieur Payon ?
Chère madame, on est sur un sujet qui est vraiment une des préoccupations fondamentales des Français. J'ai pu donner hier matin une longue interview dans le quotidien du médecin où vous verrez, si cela vous intéresse, ce qui semble être le cas, l'ensemble de mes propositions. D'abord sur la question de la médecine libérale. Bien entendu, personne ne compte la remettre en cause. Mais il y a deux choses à faire quand même. Faire en sorte qu'elle soit présente, si on le peut, sur tout le territoire. Ça n'est plus le cas. Vous savez d'ailleurs que les jeunes médecins attendent maintenant 39 ans pour s'installer, et partout où je vais, que ce soit d'ailleurs en rural ou en banlieue, on voit qu'on n'a pas les médecins que l'on souhaiterait avoir. Donc il faut des encouragements à l'installation, je propose à la fois sur les cotisations sociales et sur l'impôt sur le revenu qu'il y ait ces encouragements. Il faut dans la période intermédiaire, parce que même si, comme certains le proposent, on augmente le numerus clausus, c'est 20 ans de délai, il faut faire que nos médecins, ils sont à peu près 20 000 qui sont en situation de pouvoir à la fois exercer et prendre la retraite, restent et qu'on les y incite, que les internes hospitaliers qui ont la capacité d'intervenir en médecine libérale le soient. Et puis il faut aussi, madame, parce qu'aujourd'hui c'est la réalité, si votre enfant ou vous-même, vous avez un problème ophtalmo, vous allez aller aux urgences de l'hôpital parce que sinon il faut 9 mois pour avoir un rendez-vous. Si votre enfant a de la fièvre le samedi soir, vous irez aussi aux urgences de l'hôpital parce que vous ne trouverez pas un pédiatre. Et donc il faut aussi qu'on aide notre hôpital public. Vous savez, quand je regarde pourquoi la France est encore un pays qui attire. Les étrangers mettent en premier la qualité de ses services publics. On a parlé de l'école, nous avons une grande école et qui accueille tout le monde et qui est capable de traiter tous les enfants également et de les instruire. Nous avons aussi un hôpital public magnifique. Là, il est un peu asphyxié, je veux lui redonner de l'oxygène. Donc, aide à la médecine libérale, accomplissement de la réforme du tiers payant, négociation avec les mutuelles, refus de ce que nous propose M. Fillon, c'est-à-dire vous vous soignerez en fonction de votre capacité contributive, et donc je veux une mutuelle publique pour les risques qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui, et puis à côté de ça, desserrer les taux qui pèsent aujourd'hui sur l'hôpital public.
On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour continuer de débattre, et que vous interrogiez Vincent Payon au 3210.
RTL 8h30. Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Vincent Payon, nous poursuivons ce dialogue avec les auditeurs d'RTL. Et maintenant, c'est Anna qui nous appelle de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques et qui vous interroge. Bonjour Anna, Vincent Payon vous écoute.
Bonjour Monsieur Payon, bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Ma question est la suivante. Je trouve que tous les discours qui sont tenus ces temps-ci sont extrêmement anxiogènes, extrêmement stigmatisants pour telle ou telle catégorie. Ça peut être les fonctionnaires, ça peut être la justice, ça peut être tout. Vous souhaitez diriger ce pays. Qu'est-ce que vous accordez comme force à la France ?
C'est une question qui me touche énormément, madame, parce que je crois que je n'aurais pas été candidat si je n'avais pas ressenti la même chose que vous. Je suis absolument désolé, par rapport à mon pays, de voir que depuis, je dirais, une dizaine d'années, c'est essentiellement la vindicte, la désignation de bouc émissaire. Vous avez dit les fonctionnaires, un autre jour c'est les étrangers, un autre jour c'est les journalistes, un autre jour c'est les riches, un autre jour c'est les assistés. Je n'entends que ça partout. Des Français qu'on dresse les uns contre les autres, alors que nous avons besoin... Et c'est ce qui est pour nous essentiel, de nous engager ensemble dans l'avenir. C'est pour ça que je veux que ma candidature, ce soit le rassemblement de la gauche chez ma famille politique, mais pour rassembler la France. Et rassembler la France vers une ambition commune qui est à la fois, on l'a dit, de faire qu'il y ait plus de solidarité, entre les générations, entre les territoires, entre les citoyens, de préparer l'avenir, parce que nous ne le faisons pas, ni au plan européen, ni au plan français. L'avenir, c'est nos enfants, bien sûr, mais c'est l'avenir de notre pays. Et c'est d'être capable, en même temps, de se donner les moyens de faire tout ça ensemble, d'où cette réforme institutionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que, dans le fond, notre système politique conduit à cette violence, à cette brutalité. On l'a vu ces dernières années, mais ça dure depuis très longtemps. À exclure beaucoup de gens, à ne pas se parler, à ne pas se respecter, et donc à faire des petites phrases, à faire des coups de menton. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et donc, moi, c'est vraiment le chemin que je veux tracer avec les Français, et qu'on s'en donne les moyens, c'est de se rassembler, parce que je pense en plus, comme vous dans ce que vous avez dit, qu'il y a une majorité de Français qui ne veulent pas de cette agressivité, qui ne veulent pas de cette division. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les plus violents, par les plus désagréables. Et donc, nous devons trouver les moyens de nous rassembler, au-delà souvent de nos camps d'origine, et avec respect, pour construire ensemble d'autres perspectives.
Merci de nous avoir appelé, Anna. Et nous allons terminer ce tour de France des auditeurs d'RTL en allant retrouver Jean-Jacques à Troyes, dans le département de l'Aube. Jean-Jacques, Vincent Payon vous écoute.
Oui, bonjour Iscaldi, bonjour Vincent Payon.
Bonjour.
Oui, oui, bonjour. Moi, je voulais poser une question, c'était par rapport au non-cumul des mandats. Parce que c'est un vieux serpent de mer, on en parle depuis maintenant une vingtaine d'années, je veux dire une quinzaine d'années déjà depuis Lionel Jospin. Et j'aimerais savoir votre position à ce point de vue.
Cher monsieur, moi je tiens beaucoup à ce qu'on appelle l'exemplarité. Et parmi mes références politiques, Mendès France, Jospin, cette idée « faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait » est fondamentale. Le meilleur témoignage que vous pouvez avoir, c'est qu'en 1997, j'ai signé une tribune avec d'autres jeunes parlementaires pour dire « il faut le mandat unique, nous ne cumulerons pas ». Je suis le seul qui, depuis 1997, a respecté sa parole, ce qui fait d'ailleurs que parfois, quand je perdais les élections, il fallait que j'aille travailler. Le système que je vous propose avec la proportionnelle intégrale s'accompagne du mandat unique et de la limitation des mandats dans le temps. Il faudra bien sûr, le 49-3 n'aura plus de sens, le supprimer, mais revenir aussi sur la motion de censure, de telle sorte que ceux qui la présenteront devront présenter en même temps un Premier ministre. Donc la réponse est claire et nette, c'est le mandat unique pour tous les parlementaires, de telle sorte qu'on se consacre totalement à ce travail magnifique qui est de faire la loi, le Dieu des Républicains. Elle part de tous, elle s'applique à tous, et puis aussi le contrôle du gouvernement. Et là, je souhaite que l'on associe les citoyens avec les parlementaires pour contrôler l'application des lois. Car je pense que une des difficultés aujourd'hui et de distance des Français à l'égard de l'action publique, elle est liée au fait qu'on accumule des lois, des décrets, des circulaires, mais qu'en réalité, les choses ne changent pas et que souvent, ces lois ne sont pas appliquées. Donc je voudrais que le deuxième volet, contrôle de l'application des lois, avec présence des citoyens, fasse partie pleinement de ce Big Bang démocratique, de cette refondation républicaine que j'appelle de mes voeux. Mandat unique.
Merci beaucoup Vincent Payon d'avoir répondu aux auditeurs d'RTL. Nous vous retrouvons donc dès jeudi soir pour ce grand débat avec vos concurrents, avec LCI, TF1 et l'Obs. C'est grande soirée bien spécifique sur l'antenne d'RTL. À partir de 18h, elle sera conduite par Marc-Olivier Fogiel. Merci Vincent Payon d'avoir passé cette matinée avec nous.
Merci à vous.
Bonne journée à vous.